Et j'avais vraiment l'impression de vivre dans une prison. Je me sentais pas moi-même. J'avais l'impression de passer à côté de ma vie.
Vous écoutez Quelque chose à vous dire, le podcast des parents séparés. Comment dire à ses enfants qu'on se sépare? Et après, comment on s'en sort financièrement? Et pour les vacances, on fait quoi? La décision de se séparer et ses conséquences sur notre vie familiale et personnelle chamboulent inévitablement notre quotidien. Mais on s'en sort. Je m'appelle Pamela Morinière et vous écoutez la saison 1 de Quelque chose à vous dire, le podcast des parents séparés qui s'en sortent. Tous les 15 jours, j'interviewe des parents séparés, mais aussi des professionnels du divorce et de la séparation pour apporter un point de vue d'expert sur une situation bouleversante qui touche près d'un couple sur deux et que l'on a tendance à banaliser alors que ses conséquences sur notre vie familiale et personnelle sont titanesques. J'espère que ce podcast vous aidera à mieux vivre votre séparation en préservant vos enfants. Mais place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Salut les parents, j'espère que vous allez bien. Avant d'introduire l'épisode du jour, je souhaitais lancer un appel concernant un prochain épisode qui traitera des vacances d'été. Je recherche actuellement des témoignages de parents séparés qui sont partis seuls en vacances avec leurs enfants. Si c'est votre cas et que vous souhaitez partager votre expérience bonne ou mauvaise, envoyez-moi un message vocal à quelque chose à vous dire podcast@gmail.com. Quelque chose à vous dire podcast@gmail.com. Où vous me raconterez comment vous êtes parti et pourquoi ce fut une bonne ou une mauvaise expérience. Je passerai dans un prochain épisode les histoires les plus marquantes. Avant de passer à l'épisode du jour, n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs ambassadeurs du podcast, donc si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez m'aider et soutenir le podcast, n'hésitez pas à mettre un commentaire positif sur Apple Podcast et 5 étoiles pour qu'il puisse remonter dans les classements. D'avance, un très grand merci. Bonne écoute! Épisode 13, Amel. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Amel, séparée depuis 3 ans et maman d'une fille de 7 ans et demi. Amel vit à Lyon, en France, et vous allez le constater, dégage une énergie extrêmement communicative. C'est en prenant conscience qu'elle était en train de passer à côté de sa vie qu'Amel a pris la décision de se séparer du père de sa fille. Le fait de commencer à penser à elle, de reprendre des études, de se sentir légitime dans ses choix de vie, ont été déterminants pour la suite de son histoire. Amel évoque aussi la nouvelle relation qui s'est mise en place avec son ex, les nouveaux rituels qu'ils ont réussi à instaurer, et leur mode de communication, beaucoup plus fluide et pacifié. Dans cet épisode, on parle aussi de féminisme, de culpabilité et de colocation. J'espère que vous aurez autant de plaisir que moi à entendre le récit d'Amel. Bonne écoute.
Je m'appelle Amel, je suis séparée depuis fin 2019, je dirais décembre 2019, la séparation physique. Je suis en garde alternée avec le père de ma fille depuis ce moment-là. Alors au tout début, on a commencé la garde alternée avec plutôt une formule adaptée à la séparation qui était récente parce que on a changé de région, on a quitté notre région pour s'installer ailleurs. Notre fille a changé d'école aussi. Donc, on s'est dit que pour le début, c'était bien de commencer en faisant 2 jours, 3 jours. Et ensuite, au bout d'un an, quand il y a des habitudes qui se sont installées et que on avait l'impression que pour notre fille, la situation était un peu plus apaisée, on est passé en garde alternée de 1 semaine chacun, du vendredi au vendredi.
Et elle a quel âge, ta fille?
Elle a 7 ans et demi.
Si tu devais décrire ta séparation en un mot, tu dirais quoi?
Je dirais salvatrice. Ben, salvatrice parce que pour moi, quand il s'agit un peu d'imaginer une séparation probable, c'était un moment de ma vie où c'était très dur. De la vie de famille, très dur, la vie de couple. On vivait aussi dans une région où on était très isolés. Et mon ex-conjoint était très absent, très peu là, sur la dernière année et demie avant qu'on se sépare. Et j'avais vraiment l'impression de vivre dans une prison. Je me sentais pas moi-même. J'avais l'impression de passer à côté de ma vie, de passer à côté de, enfin, tout ce qu'on avait un peu construit avait plus du tout de sens. Et après, effectivement, de s'être séparé, d'avoir imaginé, tenté de reconstruire une famille autrement, j'avais l'impression que c'était très très difficile de mettre tout ça en place, émotionnellement parlant, matériellement parlant, mais ça a été très, ouais, comme un nouveau souffle, une nouvelle vie aussi qui s'offrait à moi, qui s'offrait à nous, et avec des nouvelles choses à inventer, avec aussi des nouvelles réflexions qui étaient très présentes dans ma tête, quoi. Donc ça a été, ouais, je pense vraiment salvateur pour moi, et j'avais l'impression aussi pour nous, parce qu'on n'arrivait pas à avancer dans le couple familial qu'on avait formé ensemble.
Et au bout
Et
de
je dirais
combien,
aussi.
pardon, je t'interromps, mais au bout de combien de temps tu as considéré que c'était plutôt salvateur? Parce que j'imagine que quand on a les pieds dedans, on ne trouve pas ça forcément salvateur du jour au lendemain. Quand est-ce que tu as commencé à réaliser que c'était salvateur pour toi, pour ta fille, peut-être même pour le couple que vous ne formiez plus?
Alors moi, pour moi, alors ce qui n'a pas du tout été le cas pour mon ex-conjoint, qui a vécu la séparation de façon très 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 douloureuse, mais vraiment pour moi, j'ai l'impression que ça a été salvateur assez vite, en fait, très rapidement au début, quoi. J'avais l'impression de ne pas douter de mes propres ressources pour avancer, pour essayer de reconstruire un foyer avec ma fille et moi. Et même si j'imaginais toutes les embûches et puis toutes les difficultés qui pouvaient être présentes, je crois que ça a été salvateur de façon assez rapide pour moi, parce que c'était une situation que je vivais, dans laquelle j'étais très mal depuis très longtemps. Et vraiment, avant de poser sur la table la question de qu'est-ce qu'on va faire de notre couple, quoi, qu'est-ce qu'on va faire de notre famille, pour moi, c'était déjà un peu parti dans ma tête, quoi. Donc, de se séparer physiquement, c'était quand même une liberté dont j'avais besoin, qui était vitale.
Et quand tu dis que justement c'était une situation dont tu souffrais beaucoup et depuis un moment, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? Parce que c'est pas facile de prendre cette décision de partir. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est toi qui es parti, tu nous le diras peut-être plus tard, mais qu'est-ce qui a été l'élément pour toi qui a fait que tu t'es dit basta, je m'en vais, c'est fini?
C'est toujours difficile à expliquer vraiment, parce que j'ai l'impression que c'est des situations qui se superposent les unes aux autres, quoi, et qui sont, on a l'impression que c'est un amas de situations compliquées à vivre. Et en fait, moi, j'avais un boulot où je suis partie en burn-out. Vraiment, ça a été un burn-out. J'avais jamais fait ça avant. Ça a été très, très dur. Du coup, j'ai quitté mon travail, et ensuite je me suis un peu retrouvée comme ça, assez seule aussi, assez isolée. Et j'ai dû aussi trouver la ressource en moi pour essayer de traverser cette période difficile. Et dans les réflexions et dans ce que j'imaginais, il y avait l'idée de reprendre mes études. Donc je suis allée voir une psychologue du travail avec qui a été super et qui m'a vraiment beaucoup aidée dans mes réflexions, autant personnelles que professionnelles. Et j'ai un peu acté le fait que j'allais reprendre mes études et que j'avais envie de reprendre des études sur les questions de genre. C'était des questions auxquelles je m'intéressais beaucoup, sur lesquelles je lisais pas mal de choses. Et j'avais l'impression que c'était un paradigme, en tout cas un prisme qui allait quand même, qui m'aidait à réfléchir sur ma situation, réfléchir sur ma condition en tant que femme, en tant que mère, en tant que toutes ces choses. Et puis du coup, je me suis lancée dans l'inscription à la fac, et le master 2 que je voulais faire était à Lyon, du coup à 2 heures et demie de l'endroit où je vivais. Donc il a été d'abord question de m'organiser pour reprendre des études et partir au moins quelques jours dans la semaine en rentrant quand même en continuant à faire des allers-retours. Donc quand j'ai décidé ça, on n'était pas encore séparés, mais c'est une décision que j'ai prise. Je me suis inscrite, j'ai été vue en entretien et j'ai été reçue pour commencer la formation. Donc je crois que c'est quand même, ça a été un moment assez déterminant sur je sais pas quel le fait que je pense à moi, le fait que je pense à ma vie, que je pense à ce que j'avais envie de faire, à ce qui me plaisait, à ce qui allait me redonner un peu la flamme que j'avais perdue en moi. Et moi, ouais, je pense que ça a été vraiment quelque chose qui m'a permis de me retrouver, de me recentrer sur mes propres envies, sur mes propres projets. Alors, quand on en a discuté avec mon ex-conjoint, ça s'est pas du tout mal passé parce qu'il était plutôt content que j'ai eu envie de faire cette formation. Mais c'est comme si moi j'avais un train d'avance quand même vis-à-vis de lui sur la suite que j'avais envie de donner, et que la suite que j'avais envie de donner à ma vie, elle était plutôt dans le fait d'être seule et de plus être en couple.
Ce que tu dis, c'est intéressant parce que souvent, c'est après la séparation qu'on se reconnecte à soi-même, qu'on va vers ses propres désirs, c'est comme ça qu'on se reconstruit. Et toi, on dirait que tu as fait un peu la démarche inverse, c'est-à-dire que c'est en allant vers toi, vers ce que tu étais, vers ce qui te parlait vraiment, que tu as remis tout le reste en question.
Oui, effectivement, t'as raison, parce que je m'étais pas posé la question comme ça. Mais j'avais l'impression que quand même, comme je me sentais embourbée par tout ce qu'on avait aussi construit. Et puis bon, il y a quand même aussi, c'est difficile de savoir est-ce que ce qu'on pense est légitime? Est-ce qu'on a le droit de le penser? Est-ce qu'on a le droit de penser qu'on a envie de se séparer? Est-ce qu'on imagine même pouvoir exposer sa cellule familiale? Donc quand même, malgré mes envies, en tout cas, qui n'étaient peut-être pas très claires à ce moment-là, j'avais l'impression que quand même, il me fallait une porte de sortie. Et que pour pouvoir prendre des décisions et puis pour pouvoir avancer, en fait, même sur toutes les questions que je me posais et qui n'étaient pas claires, qui n'étaient pas même formulées très clairement dans ma tête, eh ben, cette porte de sortie-là, elle me permettait plein de choses. Elle me permettait d'aller faire mes études ailleurs, de respirer, de sortir de ma cellule familiale et de m'intéresser à ces questions, en fait, qui allaient me donner aussi un peu de la matière pour la suite, vraiment. Et il y a eu quand même aussi une deuxième chose, mais pour moi, je l'analyse vraiment plutôt comme un pas un élément déclencheur, mais plutôt je sais pas, quelque chose qui m'a aidée, c'est aussi d'avoir rencontré quelqu'un, quand même. Et avec qui, voilà, j'ai pas très envie de rentrer dans les détails, mais en tout cas, qui a été peut-être aussi quelque chose qui m'a permis de me dire, ben, il y a quelqu'un d'autre qui me regarde, il y a quelqu'un d'autre qui peut avoir de l'intérêt pour moi, il y a quelqu'un d'autre qui peut me découvrir comme, je sais pas, comme je suis, et je pense que ça m'a aussi aidé à, ouais, en tout cas, à avoir suffisamment confiance en moi pour ensuite, après, avoir suffisamment de courage pour au moins amener ces questionnements-là sur la table, quoi.
Donc, tu as rencontré quelqu'un, vous n'étiez pas encore séparés quand tu as rencontré quelqu'un. Sans t'étendre sur la question, mais juste pour comprendre.
Effectivement, ouais, c'est ça.
Ça, c'est souvent
Ça reste.
aussi une autre personne qui peut être un élément déclencheur, effectivement. Je vais juste revenir sur la séparation en elle-même. C'est quand même pas un moment facile. Tu viens de décrire aussi tous les questionnements que tu as pu avoir. Une fois la décision prise, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi?
Ben, ce qui a été le plus difficile, je pense, ça a été d'assumer les décisions que j'ai prises. Et quand même d'assumer mon envie de pas continuer cette aventure familiale et du coup de culpabiliser quand même sur le fait de penser à moi et de me dire le fait de penser à moi et de voir les conséquences que ça pouvait avoir sur mon ex-conjoint, qui ça a été vraiment très dur. Et puis de sentir aussi qu'on n'était pas du tout, qu'il y avait des choses dont on s'était, que je lui avais dit, dont on s'était parlé avant, mais qu'il n'y avait pas eu une réelle prise de conscience de sa part, et vraiment de le voir s'effondrer, ça m'a beaucoup, beaucoup fait culpabiliser. Donc j'avais d'une l'impression de l'abîmer et de lui faire beaucoup de mal. Et ça, c'est très difficile à assumer quand on fait ça à quelqu'un qu'on a aimé, qu'on aime encore, mais d'une autre manière, qui est le père de son enfant, avec qui on a construit plein de choses, avec qui on a eu des belles aventures. Et ça a été, je pense que c'est la culpabilité qui m'a rongée pendant très longtemps. C'est vraiment ça qui a été le plus difficile, je pense, à gérer. Et j'ai une tendance à culpabiliser très, très forte. Et de sentir que je faisais du mal et de sentir que je faisais exploser un idéal familial, une structure aussi affective. Pour ma fille, pour lui, pour nous, c'était la culpabilité était vraiment très forte, quoi.
Et
Après le
comment on
burn-out,
la soigne cette culpabilité?
eh ben avec beaucoup de temps, vraiment, avec beaucoup beaucoup de temps, et aussi, je pense avec le fait vraiment de me renforcer par rapport à mes choix. J'ai vraiment fait un gros travail mais c'était un travail que je faisais aussi de façon un peu globale. Dans ma vie famille aussi plus élargie, de m'autoriser à penser à moi, de m'écouter et de me dire vraiment de ce que je pense et ce que je ressens, c'est légitime. Et vraiment, ça a été une question hyper centrale parce que dans tout ce que j'ai lu, dans tout ce que j'ai appris aussi à travers mon master, justement sur les questions de genre et sur tout ce qu'on a pu intérioriser aussi en tant que femme. Il y a eu aussi vraiment un gros travail sur le fait de me dire, je ne veux pas me laisser déstabiliser par ce qui est extérieur à moi. À partir du moment où moi je ressens ça, je dois me dire que c'est légitime, quoi. Et j'ai le droit de penser à moi et j'ai le droit de m'autoriser à le faire. Et ça s'est aussi atténué, je pense, avec le fait de voir que finalement, je me faisais aussi beaucoup de soucis pour ma fille. J'avais peur qu'elle ne se remette pas de la séparation, j'avais peur de la traumatiser, j'avais peur qu'elle comprenne pas ce qui se passe et qu'elle en souffre. Et je trouvais que finalement, elle s'en sortait pas si mal, qu'on en a beaucoup parlé de ça avec elle et qu'elle était quand même dans une sécurité affective qui lui permettait d'aller bien. Et au fil du temps, je pense qu'on a aussi réussi à construire un peu des choses, voilà, ensemble, quoi, dans notre nouvelle famille, qui a aussi permis, en fait, de aussi se déculpabiliser et de dire, bah non, c'était le bon choix, en fait.
Et comment vous
C'était
lui
le
avez
bon choix.
annoncé à votre fille? Alors, elle avait 4 ans à l'époque.
On lui a annoncé ensemble, dans le salon, chez nous. Je pense que c'est plus moi qui ai parlé. Mais on a vraiment fait ça tous les deux, quoi. Ça n'a pas été ma charge à moi seule. Et ensuite, on s'est dit qu'on allait aller voir une psychologue, un peu psychologue médiatrice familiale, pour discuter avec elle et nous donner des billes. Et d'ailleurs, je me demande si on n'est pas allé la voir avant de parler à notre fille. Et en fait, ça s'est très très mal passé avec cette personne.
Pourquoi?
Enfin, vraiment. Bah parce que elle nous a pas convenu, quoi. On a tous les deux ressenti un très grand malaise. On a trouvé qu'elle avait pas du tout un discours qui était adapté. Je sais plus exactement, j'ai plus vraiment son discours en tête, mais on avait très très envie de sortir de cette pièce. On s'est pas du tout senti rassuré parce qu'elle nous a expliqué. Et en fait, ça collait pas avec, oui, je sais pas ce qu'on était nous, la façon dont on communiquait. On avait l'impression qu'elle voulait. C'était vraiment très malaisant comme rendez-vous. Et on est sortis de là tous les deux en se disant que on n'allait pas faire ça, en fait, que c'était une très mauvaise idée et qu'en fait on allait se faire confiance et qu'on était capable, en fait, de faire ça tous les deux et de lui expliquer ensemble. Donc on l'a fait, on lui a expliqué, on lui a dit les vrais mots sur les vraies choses, quoi, sur ce qui est en train de se passer, ce qui allait se passer après, tout ça. Même si on n'avait pas encore tous les éléments concrets de la suite, elle avait 4 ans, je ne sais pas dans quelle mesure elle a vraiment tout compris ce qui se passait, mais elle est restée plutôt muette. Elle a pas dit grand-chose et elle a vraiment plutôt parlé, commencé à parler quand on s'est séparés. Ça a été vraiment après la séparation que là, elle a voulu un peu tout questionner sur ce qui s'était passé. Mais sur le moment, c'était assez déstabilisant parce qu'on ne savait pas trop ce qu'elle pensait, mais.
Parfois, ils ont des réactions comportementales qui sont différentes et qui permettent d'identifier un malaise ou quelque chose. Ça n'a pas été son cas.
Ben, pas vraiment, non. Ce qui a été dur, je pense, ça a été aussi, je pense qu'elle était très triste. Et je pense que de voir aussi son père dans cet état, elle n'avait pas l'habitude de le voir comme ça. Et je pense que ça a été assez difficile pour elle. Après, voilà, lui, il a fait comme il a pu. Mais c'était plutôt, je la sentais plutôt triste.
Et maintenant,
Mais.
donc vous êtes à 3 ans plus 3 ans plus tard. Comment ça se passe? Est-ce que lui, ça va mieux? Il a accepté? Vous, ta fille, ça va? Comment ça se passe entre vous maintenant, 3 ans plus tard?
Ben c'est marrant parce qu'il n'y a pas très longtemps, on est allés tous les deux avec lui manger ensemble et boire un café. Alors maintenant, on essaie de ritualiser un peu ces moments-là. C'est récent, mais on essaie de ritualiser des moments où on fait un déjeuner, où on va boire un café ensemble, on discute. Et
Sans elle?
sans elle, oui, sans elle, que tous les deux. Et on s'est dit qu'on était assez fiers d'avoir. Un peu quand même réussi des choses quoi et d'en être arrivé là. Alors c'est absolument pas terminé, c'est long, c'est toujours un peu fragile aussi tout ce qu'on essaie de construire, mais ouais, c'était chouette parce qu'on a fait le constat ensemble d'une forme de fierté qu'on ressentait tous les deux, de dire bon ben on s'en est quand même pas trop mal tiré quoi. Et la première année a été vraiment horrible, surtout qu'en plus il y a eu le confinement, donc ça nous a encore plus isolés et ça a été vraiment difficile aussi de vivre ça en plus de la séparation. Et lui, il a mis aussi beaucoup de temps à s'en remettre. Alors il a eu des ressources, il a vraiment fait un gros gros travail aussi pour avancer, pour aussi régler des choses de lui, quoi, des choses qu'il devait aussi, sur lesquelles il devait avancer. Et depuis, je sais pas, un an à peu près, un an et demi, ou j'irais plutôt un an, c'est assez évolutif. Je trouve qu'on a réussi vraiment à reconstruire quelque chose ouais, de parents, quoi, et d'une famille qui est différente. Avec deux parents qui sont pas amoureux, mais qui sont proches, on s'entraide, on a recréé un binôme, vraiment quoi,
Est-ce que
autour de nous.
vous avez mis en place certaines règles qui sont sacro-saintes, des règles de fonctionnement entre vous pour mieux vivre cette séparation pour votre fille?
Alors, on a fixé des règles assez vite, enfin, assez vite. Je pense que j'ai été assez administrative de ça au début parce que comme il n'allait pas bien, c'était aussi assez difficile de ne pas reparler d'avant, de notre vie d'avant et de pourquoi on s'était séparés. Et en fait, de parler de ça tout le temps, ça nous empêchait complètement, en fait, ça nous empêchait de sortir de cette séparation et de réfléchir à la suite, à comment on allait construire justement notre nouvelle famille. Et je crois qu'on s'est dit que de toute façon, on pouvait en parler pendant des jours et des jours. On n'aura jamais la même histoire. On n'aura jamais la même lecture de la façon dont on a vécu les choses. Donc même si on en reparlait, même si on essayait de débroussailler, c'était nécessaire de parler de certaines choses, mais on ne serait jamais d'accord en fait sur la façon dont on l'a vécu. Et je pense que ça, après d'acter ça, ça a permis, j'ai l'impression quand même, de passer à autre chose et aussi de dire, ben, on reparle plus de ce qui s'est passé avant. On reparle plus de ce qu'on était quand on était un couple. On reparle plus de pourquoi on s'est séparés et on parle de comment on s'organise, comment va notre fille, comment on gère son éducation, comment on gère tous les éléments. Du quotidien ensemble, comment on gère les vacances. Et on a fait ça pendant très longtemps, vraiment. on ne parlait pas de nous, on n'avait pas de moment tous les deux, on ne revenait pas sur ce qui s'était passé et on restait sur des choses très, très concrètes. Et dans les moments, par exemple, c'était conflictuel entre nous, on se disputait, on n'était pas d'accord, on se disait, ben, là, on arrête de s'appeler, par exemple, et on s'écrit. On s'écrit un mail, on se dit ce qu'on a à dire. Donc, on a fait des
C'est
périodes comme ça
pas
où...
violent aussi par écrit parfois? C'est pas tout aussi dur parfois par écrit?
Ben, ça peut l'être, mais en tout cas, l'écrit permettait de ne pas partir dans des grandes discussions et des grands... sur lesquelles on n'était pas du tout d'accord, quoi. Et ça évitait aussi de, oui, de rentrer dans la conflictualité, et ça nous empêchait aussi vraiment de, oui, en tout cas, de parler de choses concrètes. Et moi, j'ai l'impression que quand même, passer par l'écrit, à certains moments, ça nous a plutôt aidés. Et après, de se dire que quand on était apaisé, quand on avait, je n'ai pas réfléchi à pourquoi on s'était disputé, pourquoi ça avait été compliqué, de repasser sur la forme orale, téléphonique, ou de se donner un rendez-vous. Mais en tout cas, ça a permis qu'il y ait des balises pour que ça parte pas en live, quoi. Parce qu'en fait, ça peut partir tellement vite dans des reproches, dans des attaques, dans des... et qui crispent. Et moi, je trouvais que c'était aussi difficile après de revenir sur ces événements et d'essayer de retrouver de la confiance et d'avancer sur des choses sur lesquelles on devait vraiment avancer, quoi. Donc, il y a eu ces balises-là, quoi. Il y a eu ces balises de se dire, attention, quand on sent que c'est trop tendu, on arrête de se parler, on s'écrit, on arrête de parler de tel sujet. Et moi, je trouve que ça nous a beaucoup aidés pour... Ouais, pour reconstruire autre chose, quoi. Et aujourd'hui, par exemple, eh ben, on arrive, mais c'est récent, parce qu'on s'est apaisé, parce qu'il y a des choses qui ont bougé, qui ont changé, à discuter, à se parler de nos vies, à être beaucoup plus serein, sereine sur... Voilà, on sait qu'on va pas s'engueuler, quoi.
Quand on a préparé cette interview, tu m'as dit que tu vivais en colocation. Comment ça se passe concrètement? Tu vis avec ta fille et d'autres personnes qui ont aussi des enfants?
Pas du tout. Alors ma fille, elle habite en colocation avec moi et elle habite en colocation aussi avec son père. On s'est un peu, en fait, on a eu un appartement tous les deux. On était seuls avec elle et au bout d'un an, on en avait parlé aussi un peu ensemble de cette envie. Et il s'est installé en coloc juste avant moi et moi, je pense 2 mois après, quoi. Un peu par hasard parce que ça a été des opportunités. Et moi, quand je me suis installée en coloc, c'était des amis qui étaient en colocation. Il y avait des changements un peu dans la coloc. Et ils m'ont proposé du coup de vivre avec eux. Et ils connaissaient ma fille. Et ça a été quand même quelque chose qui m'a permis de le faire parce que j'avais confiance en les gens avec qui j'allais vivre. Et entre-temps, en fait, les colocs ont changé. Moi, je suis restée dans l'appartement avec ma fille, mais j'ai d'autres colocs. C'est plus les mêmes qu'au début, mais je trouve que c'est une formule qui est hyper chouette parce que j'ai trouvé très dur, moi, mais parce que je ne suis pas quelqu'un qui aime vivre seul, hein, aussi vraiment. J'ai trouvé très dur d'être seule avec ma fille en tête à tête, quoi. Autant, bon, les semaines où j'avais pas ma fille, bah, j'étais libre, quoi. Je pouvais sortir, je pouvais faire des trucs. Autant quand on était ensemble, de ne pas avoir d'autres personnes autour de moi, je trouvais ça vraiment difficile d'être. Ouais, bloquée à la maison, d'être toute seule avec mon enfant. Et j'avais peur de la fusion, d'une possible fusion entre nous et que ça construise quelque chose de pas sain. Donc, la coloc, ça a été aussi ça, comme je vois, quoi. Ça a été aussi pour pas se retrouver seule, avoir une forme de solidarité à la maison et puis de moments chouettes, même quand ma fille est là. Et aussi qu'on soit pas fusionnels toutes les deux, qu'il y
Et
ait aussi d'autres personnes. Voilà.
ils peuvent te rendre service éventuellement si tu as besoin de sortir ou de faire autre chose sans ta fille à certains moments? Est-ce que c'est aussi l'occasion de pouvoir compter sur tes colocs ou c'est chacun sa vie?
Ah non, non, c'est pas. Alors, c'est pas le cas avec tout le monde, mais on est quatre, on est trois adultes et ma fille. Et j'ai aussi des amis qui habitent pas très loin de chez moi, qui sont aussi en coloc. Donc, on a un petit réseau de quelques colocs proches les unes des autres. Et ça, c'est vraiment, ça crée un truc qui est aussi très, très chouette parce que ça me permet aussi d'avoir du relais de gens qui sont proches de moi en amitié, mais aussi proches de moi géographiquement. Et oui, et mes colocs, par exemple, hier, j'avais eu une place de spectacle pour mon anniversaire. Ça tombait la semaine où j'avais ma fille, et c'est ma coloc qui a gardé ma fille, qui avait invité des copines à la maison. Puis du coup, bon, elle est malade, donc elle est plutôt restée un peu dans son coin à bouquiner. Mais oui, c'est ça qui est. Enfin, c'est hyper rassurant aussi de savoir que même si je m'occupe de ma fille seule et je ne demande pas, c'est pas un appui quotidien et tout ça, mais par contre, de sentir que il y a cette possibilité-là, c'est super, c'est hyper confortable. Enfin, en tout cas, c'est aussi permis, notamment par une des personnes avec qui je vis, qui est aussi très proche de ma fille, elle s'aime beaucoup, et même quand on est ensemble à la maison, enfin, de rentrer, trouver un repas tout près, c'est quand même super agréable. D'avoir du relais à certains moments parce que moi j'ai un truc à faire, enfin, sur toutes ces petites choses-là aussi du quotidien, c'est vraiment super, ouais, de pas, en tout cas, de pas se sentir tout le temps seul, parce que c'est pas facile aussi comme charge.
On arrive déjà à la fin de cet entretien et je
Ah!
voulais savoir s'il y avait...
Oui.
S'il y avait un livre, quelque chose qui t'a aidé pendant ta séparation et que tu pourrais partager avec nos auditrices aujourd'hui?
Voilà. Alors, il y a beaucoup de livres, hein. Enfin, il y a beaucoup de choses. J'ai lu et j'ai écouté beaucoup de choses. J'ai beaucoup, beaucoup écouté un podcast à soi,
Un podcast à
sur
soi
Arte Radio,
qui
sur
parle
le
de quoi?
couple, bah, sur le couple, sur la famille, même des nouvelles façons et des différentes façons de faire famille. Et aussi, j'ai une revue que j'aime beaucoup, que je lis depuis un petit moment, qui s'appelle La Déferlante, une revue féministe. Et qui a fait pas mal de petits articles aussi sur le couple, le modèle du couple hétéronormatif, sur ce que ça crée, sur comment aussi réfléchir à essayer de changer aussi un peu ces normes dans lesquelles on a baigné en termes de modèle, et aussi sur différentes façons de faire famille en dehors du couple amoureux. Et je pense que ça m'a vraiment beaucoup inspiré, cette revue, d'autres bouquins. Enfin, je sais pas, j'ai beaucoup lu, j'adore Virginie Despentes. Alors, elle parle pas spécialement de la famille, mais en tout cas, c'est un ensemble de lectures et pas mal de podcasts, notamment celui-là, là, qui m'ont pas mal inspiré. Et bon, je continue, hein, à écouter des trucs, à
On
lire.
mettra on
Là,
mettra la liste de tout ça
ouais.
à la fin en note de l'épisode. Mais au niveau des podcasts, tu disais donc un podcast à soi. Est-ce qu'il y a d'autres podcasts aussi qui t'ont marqué ou que tu
Ouais.
écoutes actuellement d'ailleurs et que tu souhaiterais recommander à nos auditoristes qui écoutent beaucoup de podcasts comme toi?
Moi, j'aime bien écouter les entretiens de Lorraine Bastide dans La Poudre.
La poudre, oui.
Je trouve qu'elle a la poudre, elle invite, elle a toujours des super invités, et j'écoute pas tous les entretiens, mais il y a vraiment quelques entretiens et quelques personnes qui sont très très inspirantes, et j'aime bien sa façon de poser des questions, j'aime bien, enfin, elle s'intéresse vraiment aux gens qu'elle invite, et voilà. En tout cas, ça m'a fait aussi m'inspirer pas mal de certaines personnes que j'ai écoutées. Alors moi, j'ai adoré l'interview de Virginie Despentes en deux parties, mais j'aime beaucoup aussi la sociologue Kaoutar Archi. Elle a interviewé récemment aussi Myriam Bahafou des Paillettes sur le compost, qui est une meuf qui est absolument hallucinante, qui a une énergie de dingue et qui met plein plein de choses super intéressantes sur la table de façon très assumée. Et je trouve que oui, ça fait des imaginaires de personnes qui aussi donnent du courage, la force, des idées, et qui, par rapport à ce que je te disais tout à l'heure, tu vois, sur se sentir légitime, c'est pas toujours évident, vraiment. Enfin, je sais pas, en tout cas, de se sentir légitime par rapport à ce qu'on est, par rapport à ce qu'on pense, par rapport à ses envies, par rapport à ce qu'on ressent, où on peut aussi se faire Enfin, ouais, je sais pas, déstabilisée pas mal de fois, et je trouve que, ben voilà, d'écouter aussi un peu des personnes combatives, et voilà, et qui en parlent de façon aussi très politisée, ça, très inspirant.
J'avais envie de te poser une dernière question, Amal. Est-ce que la séparation, pour toi, c'est un échec?
Est-ce que la séparation pour moi est un échec? Non. Alors, j'ai changé d'avis hein, là-dessus parce que c'est pas toujours comme ça que je l'ai vécu et que je l'ai imaginé dans mes autres histoires amoureuses et ma façon de vivre la séparation. Mais je ne sais pas si c'est lié au fait aussi d'être parent et d'avoir un enfant et d'avoir un enjeu aussi autour d'être lié aussi par un enfant et qu'il y a un vrai enjeu sur la suite de la façon dont ça va se passer et que peut-être ça a aussi un peu changé la donne, mais non, je l'ai pas je l'ai pas enfin, je le vis pas comme un échec et je pense que même pour la suite ça m'a aussi sacrément armée sur même comment je vais vivre mes futures relations amoureuses en disant que non, c'est pas un échec,
C'est pas un échec par rapport à par rapport à la famille que vous formiez tous les trois?
non, c'est pas un échec. Vraiment, je le ressens pas comme ça. Il y a quand même quelque chose de, comment
Je me fais
dire, quand
l'avocate
même.
du diable, hein, c'est pas
Non, non,
forcément
mais c'est
un
pas intéressant hein, que tu
échec.
poses ça comme ça, quoi. Et c'est des questions aussi que je me suis déjà posées, mais je pense que il y a de la tristesse un peu autour du fait d'avoir souffert aussi de cette séparation, d'avoir souffert aussi, même pas que de la séparation, mais aussi de la façon dont ça s'est passé entre nous avant qu'on se sépare. Mais moi, j'aurais pas eu envie, par exemple, de continuer mordicus pour essayer de tenir quelque chose. Et justement, en voyant que les autres possibilités qui s'offrent à nous de reconstruire quelque chose, la famille sous une autre forme, et nous de réussir à nous même à nous retrouver un peu ensemble sur des choses qui nous lient et tout, ça me permet aussi de pas le vivre comme un échec parce que s'accrocher pour s'accrocher quand tu sens que au fond de toi bah t'en as pas envie ou tu sens que c'est pas la bonne solution, j'ai l'impression que ça peut faire plus de mal que moi, je sais pas, d'acter que c'est fini, mais je sais pas si c'est parce que j'ai des parents divorcés hein, que je dis ça, et pour le coup ça a été un divorce et une suite de divorces très très durs vraiment, et ça a été aussi une leçon pour vraiment pas refaire pareil et aussi dire que en fait, c'est pas parce que tu te sépares, c'est pas parce que tu vis plus dans le même contexte familial qu'avant qu'il faut que ce soit triste, qu'il faut que ce soit horrible ou qu'il faut que tu te fasses du mal et que tu vas mettre les enfants ouais, et que les enfants vont aussi subir finalement les choix des adultes, quoi.
Et quand tu dis que tu ne voulais pas reproduire ce que tu avais vécu, tu parles de quoi?
Bah de enfant comment enfant et même après plus tard comment j'ai vécu et observé la séparation de mes parents leur façon de la gérer. Alors voilà, c'était un autre contexte, d'autres configurations, d'autres personnes, tout ça, mais je crois que ça a été quand même assez traumatique et j'avais pas envie que ma fille elle subisse les mêmes conséquences que nous on a pu subir enfant. Et je pense que j'ai aussi déployé tout un tas de choses aussi pour ça, pour dire je veux pas qu'elle souffre. Elle en souffre de fait parce que c'est pas évident de voir ses parents séparés. Je pense qu'elle a, enfin c'est normal, mais de se dire ben on peut aussi quand même construire autre chose qui lui permette en tout cas de se sentir bien, de se sentir aimé par ses deux parents, qu'on puisse, oui, reformer un binôme, qu'on puisse être solidaire et qu'elle puisse, elle, se sentir bien dans sa vie, quoi, et dans une sécurité affective, je pense, qui parfois n'est pas dans les couples qui se déchirent ou dans les couples qui se séparent, ça peut être aussi assez dramatique quand même, la suite. Gérer la séparation quand tu es en conflit, ça peut être tellement l'horreur aussi
Et avec du
pour les
recul
enfants.
maintenant, maintenant que ça fait 3 ans que vous êtes séparés, c'est vrai qu'on était quasiment sur la fin de l'entretien, on repart un peu de plus belle, mais est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aurais fait différemment?
J'aurais dû plus m'écouter sur mes envies, sur ce que je pensais quand on était ensemble.
Ne pas
Je
avoir
pense que j'ai
attendu, tu
été
penses que tu as
trop.
trop attendu?
Eh ben, je pense que j'ai été trop dans le sacrifice. J'ai été trop dans arrondir les angles, avoir envie que ça se passe bien, faire en sorte que pour lui, ça accomplisse professionnellement. Enfin, en tout cas, qui assurer à la maison avec ma fille et tout. Et je pense que je me suis beaucoup mise de côté aussi sur plein de choses, sur des choix aussi qu'on a fait ensemble, mais finalement avec lesquels j'ai un peu de recul aujourd'hui. Et je pense que ça, c'est... Bon, je suis pas du genre à me dire que j'aurais dû faire différemment. Je me dis que c'est comme ça et que c'est aussi dans ces trucs-là qu'on apprend et qu'on avance. Mais quand même, je pense que si je m'étais plus écoutée et que j'avais eu plus de force et plus d'outils à ce moment-là, j'imagine que les choses, elles se seraient passées différemment. Ça ne veut pas dire qu'on ne serait pas séparés, mais en tout cas, peut-être pas aussi brutalement, puisque ça a été quand même assez, assez brutal et assez rapide.
Eh bien, merci beaucoup, Amel. Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a un conseil que tu voudrais donner aux parents qui nous écoutent, qui sont en pleine séparation ou qui viennent juste de se séparer ou qui hésitent à se séparer?
Oula, je me sens pas du tout dans une position de conseil parce que vraiment, je pense que aucune situation se ressemble et que c'est pas, enfin, je veux dire, on voit bien aussi même avec nos amis, avec les gens qui sont proches de nous, qui sont dans des situations qui sont compliquées ou comme c'est difficile de donner des conseils. Donc moi, je dirais pas en termes de conseils, mais j'ai l'impression que ce que je dis un peu aussi des fois quand je parle avec des personnes proches de ça ou qui me posent des questions, je dis plutôt que il faut se sentir légitime, quoi. Enfin, je sais pas, en tout cas, ça veut pas dire qu'il faut foncer la tête dans le guidon, mais je sais pas, croire en ce qu'on ressent, croire en ce dont on ce qu'il y a au fond de nous et pas et je trouve qu'on peut être facilement décrédibilisé aussi parfois quand on dit des choses par exemple en disant mais c'est toi tu te fais des films mais t'es trop comme ci t'es trop comme ça et du coup psychologiser aussi un peu des choses qui font qu'on intériorise aussi des pensées ou des réflexions qu'on a et de pas les assumer. Et je dirais que ça serait plutôt ça. Et en tout cas, moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée et qui m'aide encore aujourd'hui en me disant non, si je ressens ça de façon aussi, depuis aussi longtemps, de façon aussi intense, c'est que, voilà, faut que je me fasse confiance, c'est que ça vient pas de nulle part et il faut que je l'assume, sans me faire trop déstabiliser par l'autre ou par les autres. Et ce que je te disais tout à l'heure aussi sur le fait on peut avoir l'impression que je parle de tout ça de façon hyper positive, que c'est génial, qu'on a trop assuré, qu'on est des super parents qui avons géré une séparation idéale. C'est pas ça. C'est plutôt que là, je me disais que j'avais envie plutôt de dire que ben c'est aussi possible de s'en remettre. C'est aussi possible de se dire ben c'est pas la fin du monde, c'est aussi possible de reconstruire autre chose, c'est aussi possible de se retrouver autrement et c'est pas aussi dévastateur pour les enfants qu'on pourrait le croire et que parfois rester dans une situation toxique, bah c'est pas mieux pour les enfants non plus et que moi j'ai l'impression, je sais pas, que ma fille par exemple sentir que ses parents vont bien, sentir que ben, je la sens aussi épanouie parce que nous on va bien en fait aussi et qu'on communique C'est qu'elle est apaisée par ça, qu'elle n'a pas besoin, elle, de gérer ça, quoi. C'est pas, ça la concerne pas. Elle est là, elle vit sa vie, on l'explique. Et parfois, c'est compliqué, hein. Ça veut pas dire, on lui dessine pas un monde idéal, mais il y a des choses, c'est pas à elle de les prendre en charge. Voilà, donc c'est pour ça que j'avais aussi envie d'en parler plutôt en termes de qu'est-ce qu'on a, comment on s'en est sorti et qu'est-ce qu'on a construit qu'est-ce que ça a permis aussi cette séparation de façon positive.
Merci beaucoup, Amal. C'est vrai qu'on a en filigrane ce que j'entends dans tout ça, c'est qu'il faut aussi faire confiance à son intuition. Et je crois que c'est vraiment ce que tu as essayé de faire, même si ça n'a pas été toujours simple. Et peut-être que effectivement, la décision, elle doit aussi mûrir. Et c'est quand même une décision difficile à prendre. Et parfois, il faut plusieurs années pour avoir le courage de la prendre. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage. Je trouve que je le trouve très riche et très inspirant, et j'espère qu'il inspirera beaucoup de celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Bonne journée à toi.
Merci, merci Pamela, à bientôt.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté le podcast. Pour le soutenir, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée, à en parler autour de vous, voire même à en parler entre vous. Vous pouvez également retrouver le podcast sur Instagram et sur Facebook. Et si vous avez des suggestions ou des commentaires, contactez-moi sur quelque chose à vous dire podcast@gmail.com. Quelque chose à vous dire podcast@gmail.com. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!